Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato, ma no. E va bene, lo so, oh, oh. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere. Non si.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Ciao Michelino! Come
sì,
va?
Cantalina, com'è?
Ah, là, il fait beau, tu peux dire qu'il fait beau.
Ah oui, non, il fait beau
dehors,
aujourd'hui.
Dehors, dedans, on a plein de monde ici autour de nous, c'est bien. Hein.
Alors, c'est marrant parce que quand j'ai préparé mon petit sommaire, j'ai dit avec cette météo un peu chagrin, et non.
Eh ben non, tu
et
vois.
Non, faut que je rectifie, attendez, excusez-moi,
ah ouais.
Avec le crayon.
Voilà, ouais. Dernière minute.
Dernière
c'est
minute.
Ça le direct.
C'est ça le direct, voilà. Ben, merci à vous. bon dimanche, on est content parce qu'il y a ta petite sœur qui est là,
oui,
Béa. Et alors, je pense que vu comment elle parle bien et tout, on pourra peut-être un jour l'embaucher à Capuche.
Ah,
qu'est-ce que t'en penses? La relève est assurée. Hein. La relève, elle connaît bien l'Italie. Elle y va tous les 5 minutes et tout. Donc, hein,
bah
Béa?
Oui, ça c'est
bon.
Sans problème.
Alors, bonne journée à tutti. Bon réveil à tous. En douceur ce matin.
T'as un invité? Tu
oui,
te présentes
oui.
pas
mais attends, c'est le sommaire. Hein.
Ah,
mais la gouaille et la bonne humeur fait partie de notre invité, justement, Bruno Rossetti. Avec deux S et deux T, qui nous transportera à Saint-Nazaire avec son livre Ciao Little Italy. J'espère que je le dis bien. On voyagera sur les océans du monde entier. Les chansons seront des chansons de mer et de bateau. Et justement, là, on va commencer avec Fiorella Mannoia qui nous chante une chanson de Lucio Dalla. Elle est superbe, cette chanson. Elle doit dater de 1967, La Casa Riva al Mare.
Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. E tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza e una follia. E sognò la libertà, e sognò di andare via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stan passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Questa sera vengo fuori, Maria, vedrai che bella la città. E sognò la libertà, e sognò di andare via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. E sognò la libertà. Via, via, e un anello vide già siamo passati tutti gli anni insieme. Ed i suoi occhi ormai non vedo più, ma disse ancora: la mia donna sei tu. E poi fu solo in mezzo a blu.
Je me suis fait disputer parce que j'ai pas présenté les gens qui sont ici dans le studio et c'est super. Alors Enrico Mastrogiovanni. D'ailleurs, j'ai vu un film l'autre jour où il y avait ton nom qui était cité, Mastrogiovanni. Mmh. Donc c'était un film, Alain.
Je ne sais plus de quel film.
Si, c'était le film de Nanni Moretti.
Ah oui.
Sur les communistes. C'est le chef des communistes de l'époque. Donc, il y a Béatrice Mario Vecchione, il y a Chantal, il y a Alain Amengual, et puis Raphaëlito. Et donc, aujourd'hui, donc, on va propose du cinéma.
Du cinéma.
Trois ou quatre films.
Trois films sortis et un film à voir bientôt.
Alors, juste un truc, avant qu'on oublie, on salue qui ? Aussi.
On salue tous nos auditeurs.
Mais non, mais on salue aussi, bien sûr, les auditeurs, mais les gens de l'ACLI, ACLI Cinéma Cappuccino, voilà. Qu'on va peut-être retrouver cet après-midi aussi, également.
Certains, certainement. Voilà.
Donc, on se retrouve maintenant en septembre, puisque le Ciné-Club, maintenant, reprendra en septembre.
Voilà, on peut dire qu'on a passé une comédie de Gennaro Nunziante avec Checco Zalone.
Checco Zalone, on ne dira pas la traduction de Checco Zalone.
Il y aurait d'autres interprétations aussi de ce pseudo. Donc voilà, c'était une très bonne comédie, on a beaucoup ri. Alors, les films à voir actuellement, c'est l'affaire Zanetti. L'affaire Zanetti, c'est une vraie d'après une histoire vraie, c'est une Elisa Zanetti qui a assassiné sa sœur et sa mère en la brûlant, et qui se retrouve évidemment quand même...
Ça commence bien avec les présentations.
Ce n'est pas vraiment une comédie. Ce n'est pas vraiment une comédie, c'est un film de Leonardo Di Costanzo, qui avait déjà fait précédemment, par exemple, Aria Ferma, qu'on avait vu passer également à notre petit ciné-club, où ce sont une prison qui doit être transférée de Sardaigne, et avec Tony Servillo, notamment. Voilà. Et donc là, c'est une affaire judiciaire et cette femme ne se souvient plus de rien, cette Elisa Zanetti. Elle est coupable, elle est arrêtée et elle est dans un moitié hôpital psychiatrique et soignée par un psychologue qui est Roche Dizem. L'acteur français. Donc,
il joue bien, lui.
Parle
j'aime bien
beaucoup français acteur. Parce que ça se passe aussi à la frontière suisse, un petit peu. Elle est dans une prison un petit peu aménagée. Donc, on peut le voir depuis le 3 juin au cinéma, notamment au 5 au matin, où Leonardo Di Costanzo est venu le présenter le 3 en avant-première dans ce cinéma Le 5 au Martin qui est dirigé par Francesca Pesce. Francesca Pesce, c'est une Italienne qui dirige ce cinéma et qui fait tous les mois un ciné-club italien qu'on a annoncé. Et je vous annonce, puisqu'on y est, le prochain...
Par contre, on a pesqué, non ?
Non, ce n'est pas la pêche. C'est la pêche, mais des poissons. Des pêches.
C'est lourd.
On peut dire, écoute, tu le reconnais toi-même. Merci. Donc, le prochain, ce sera Città Aperta, hein, ce célèbre film de Rossellini avec Anna Magnani, notamment Franco Fabrizi, etc. Donc, alors, le problème, c'est que c'est le dimanche, toujours tous les dimanches, une fois par mois, le dimanche matin, à 11h30. Et nous ici, on n'a pas le temps d'aller jusqu'au 5 matin, donc on n'a pas pu encore voir ce ciné-club, mais on l'annonce tous les dimanches. Donc, le 21, ce sera Roma Aperta. Alors, les autres films sortis, c'est un film de Simona et Ricky Tognazzi, qui est le fils d'eux. Ricky Tognazzi, hein, le fils de Ugo Tognazzi, et ce film s'appelle Francesca et Giovanni.
Pas forcément.
Ugo
Tognazzi.
Oui, voilà, bravo. Et donc, Francesca et Giovanni, ce Giovanni, c'est Giovanni Falcone. Et c'est l'histoire de sa femme, juges, qui était elle-même une juge, ouais. Voilà, et qui ont péri dans l'attentat de Capaci, où on a fait sauter l'autoroute.
On a fêté d'ailleurs, je crois, les 30 ans.
C'est possible que c'était...
Oui, pas longtemps.
Oui, voilà. Donc ça raconte tout ce qui s'est passé avant, parce qu'elle-même était juge pour des mineurs, notamment. Et donc, voilà, c'est avec Esther Pantano et Primo... Quoi d'autre va sortir bientôt Une année italienne. Là, c'est un film de Laura Samani, donc je n'ai pas encore vu. Il sortira apparemment le 9. Non, fille de sa mère et de son père.
Mieux pour elle, j'espère.
Voilà. Et le mardi 9, justement, à 20h, Laura Samani sera en présence au 5 Martin pour présenter ce film. Voilà, mardi 9 juin. Noté.
Merci. Dans vos tablettes. Non, on rigole, hein, il faut bien quand même assez dimanche matin et tout, hein, pour ce qu'on est payé, donc attention.
Ecco tutto pour aujourd'hui.
Grazie mille.
Prego.
Alors là, on va écouter toujours des chansons qui sont en rapport avec les bateaux et la mer. Là, on écoute Fabrizio De André qui rend hommage en dialecte genovese à tous les émigrés qui sont venus travailler dans les chantiers de Saint-Nazaire.
Ombre de muri, muri de maine, donde ne vegni du vele cane, danci tu du valina se mostra nu, e a nettana punto cutri luogo, e a montala seu che resto tio, di aule seu se gaffetuni, ne sciortimmo da uma pesci gaio se da odri, a fontana di cun. Tacca le prie. Ehi, andau, meu, ehi, andau, meu, ehi, ehi, andaio. Ehi, andau, meu, ehi, andau, meu, ehi, ehi, andaio. Intacca le prie, chi che saia, intacca l'udria con un mano. Figlie de famiglia, oro de bon, e ti piamiale senza condon. Lasagne da figlia e quattro tu, ma cinque in negro tu sei delle prede cu. E anda. Se ve cose che dai cose da beve, cose da mangia, frittia de pigne, gianco de portofin, se belle de pelle, tu mangi muffin, lasagne da figlia ai quattro tu, ma cico in negro tu, se delle prede tu, e anche
scia barca dominghe, navegiamo sci scherci, emigranti d'urria, coi cianchirci, fin comati in crescenda, poi l'ora cacci, freddi canne, fani e le fici, baccanda corda, marsa de guede sa, cane riga ne porca, antena cresa de man, ehi anda.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors nous sommes avec Bruno Rossetti. Buongiorno, tutto va bene?
Buongiorno, tutto bene.
Voilà, alors on est content de te trouver là parce que c'est vrai que tu n'es pas d'ici, tu es de Saint-Nazaire et c'est vrai que c'est compliqué de venir à Paris parce que tu n'as pas toujours l'occasion de venir. Et là, ça tombait bien puisque tu as l'occasion de venir par rapport à tes activités. Et on s'est dit, il ne faut pas qu'on le rate parce que vraiment, c'est quelqu'un qui aime l'Italie, qui sait très bien parler de l'émigration italienne, surtout dans son secteur à Saint-Nazaire, il connaît tout. Et en plus, tu as fait des beaux livres, dont le dernier, donc, qui s'appelle Ciao Lit Italy, qu'on peut trouver un peu partout, dans toutes les grandes librairies, même en Fnac, etc.
Exact.
Alors, comment tu vas? Tu as vu, ça te plaît la radio là, première fois?
L'ambiance me plaît. En plus, il y a eu un bon petit café d'accueil. la sympathie totale.
Tu reviendras.
Donc, moi, oui, ça me fait plaisir. Ça serait vraiment génial.
D'accord. Alors, on s'était rencontrés il y a déjà un an. On avait fait une émission ensemble à l'extérieur, à Rennes, sur des mosaïstes italiens, parce qu'il y en a beaucoup en Bretagne. Il y avait une belle émission sur ça. À Rennes.
Et oui, avec Top Italia en même temps, et puis Carmelo
Mandello
qui était là.
C'était
très sympa, c'est vrai, c'était une rencontre superbe parce que l'émigration italienne, on en parle moins, on en a moins parlé dans l'ouest de la France par rapport à d'autres régions, mais il y a des choses exceptionnelles à faire ressortir. Et là, tu cites Michel, les mosaïs, c'est Odorico qui est venu du Frioul, ta région là, enfin, votre région à vous deux là, et qui s'est trouvé finalement à Paris au départ, et après il est allé vers l'ouest de la France et il a fait des travaux exceptionnels, une piscine vraiment magnifique à Rennes, des plus belles de France, avec
à Paimpol, partout on a des devantures avec tout son c'était de l'émission qu'on avait fait ensemble justement sur ce grand mosaïste. Alors là tu es là parce que tu vas nous parler déjà un petit peu de ton parcours, parce que c'est un parcours assez atypique. Alors, tes grands-parents sont venus avant-guerre, en 1924, mais après, donc, tes parents, eux, sont venus après-guerre. Toi, tu es né en France. Explique-nous un peu tout ça.
Oui. Moi, je suis né à Saint-Nazaire, une autre capitale. Hein, quand on est à Paris, ici, c'est la capitale de la France. Saint-Nazaire, c'est aussi une capitale pour la France. C'est la capitale de la construction navale. On suit même dans l'actualité, toujours maintenant. Mais dans le passé, c'est là qu'ont été faits les trois paquebots vraiment mythiques, les plus beaux que la France a pu faire. Dans l'ordre, c'est Île-de-France. C'est pour cela que les Italiens sont arrivés en 1924. Après, Normandie. Même les étrangers ont dit que c'est probablement le plus beau paquebot du monde. Et après, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le paquebot France. Mais là, les choses que je parle, l'histoire, c'est surtout par rapport aux deux premiers, parce que c'est avec l'histoire de cette Little Italy, les Italiens. Moi, je suis né à Saint-Nazaire. Mes grands-parents donc, sont arrivés en 1924, partant de Gênes, mais ils n'étaient pas génois. Mon grand-père était de Sardaigne.
C'était parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens là-bas qui connaissaient déjà un peu la construction des bateaux qui venaient à Saint-Nazaire, c'est pour ça.
Oui,
il y avait un savoir-faire.
Tout à fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que, comme tu le dis, Gênes, c'est un grand port, un savoir-faire maritime. Et c'est là que des recruteurs des chantiers de Pingouette, à l'époque, qu'on appelle des chantiers de l'Atlantique, là maintenant, sont venus sur le port de Gênes et de l'autre port d'à côté aussi la Spezia, mais tout en Ligurie, pour recruter de la main-d'œuvre supplémentaire parce qu'il fallait faire des bateaux hors normes qui étaient d'une longueur, d'une taille très impressionnante. Et la main-d'œuvre sur place dans toute la partie Bretagne, Pays de la Loire, Charente, etc., ne suffisait pas pour faire ces bateaux-là.
D'accord, donc c'est comme ça qu'on a émigré. On sait le nombre d'émigrés
oui,
italiens qui, alors,
oui, parce que, qui sont venus. À ce moment-là, en 1934, grâce à une historienne qui s'appelle Marthe Barbance, qui a fait toutes les archives, parce que c'est une zone qui a été malheureusement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a beaucoup de documents qui ont disparu, mais c'est 138 familles, donc c'est à peu près 700-800 Italiens, à peu près, qui sont arrivés d'un coup, et qui ont été tous au même endroit, dans le quartier de Pinouette. On dit le chantier de Pinouette. Donc Pinouette, c'est un quartier de Saint-Nazaire ouvrier collé au chantier du même nom de l'époque. Et c'est là que, sur la partie du Prégras, on avait regroupé ces 138 familles qui en faisaient une Little Italy, justement, plus petite que Manhattan à New York, bien sûr, mais ça a le mérite d'exister.
Alors, tu nous expliqueras après un audio là, qu'on va écouter, qui dure une petite minute, qu'est-ce que c'est la Little Italy ? Parce qu'on en entend partout, toujours,
bien sûr.
Little Italy à New York, un peu partout,
mais on ne sait pas vraiment
ce que ça veut dire, alors qu'il y a une explication bien précise.
Exactement.
Alors là, on écoute un audio sur l'exposition sur la construction de l'Île-de-France de Boulogne-Billancourt, et on rappelle que l'Île-de-France a été inaugurée en 1926.
En 1927, le paquebot Île-de-France quitte le Havre pour son premier voyage vers New York. À bord, c'est une révolution. L'intérieur du bateau est totalement art déco. Meubles, cabines, salons, argenterie reflètent le savoir-faire français de l'époque.
Les fauteuils, les chaises sont conçus par Jacques-Émile Runemann, où on retrouve toute l'esthétique de l'art déco, avec ces lignes extrêmement pures, sobres, épurées. On n'est plus du tout avec Île-de-France dans les styles du passé. Les grands paquebots précédents, par exemple le paquebot France en 1912, étaient décorés en faisant référence au grand style du XVIIe siècle français.
Une exposition au musée des années 30 à Boulogne-Billancourt dévoile cette ambiance des années folles. La majorité des pièces exposées vient des réserves havraises de French Line et compagnie, chargées de conserver ces trésors trop peu visibles. À l'époque, les compagnies maritimes européennes rivalisaient de luxe et de splendeur pour attirer la clientèle. La concurrence était féroce sur la ligne de l'Atlantique Nord. Alors il fallait se démarquer.
Il est intéressant de souligner que pour les paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique, et c'était la seule compagnie européenne à le faire, les vins étaient servis et compris dans le prix à discrétion. Donc ce qui contribuait, on le dit souvent, à l'atmosphère de fête qui régnait à bord des paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique.
Deux mots sur l'Île-de-France. Là, il y a beaucoup d'Italiens qui ont travaillé sur ce grand paquebot.
Ben oui, c'est pour se faire ce paquebot, le construire, qu'ils sont arrivés. 3 ans de travail, puisque là on annonçait son départ, son premier voyage en 1927, début 1924. Et le paquebot était vraiment exceptionnel. Il a une histoire d'ailleurs incroyable, mais on pourrait rester une heure à expliquer son histoire. Mais en deux mots, c'est un navire déjà qui a navigué jusqu'en 1959, donc c'est un record, qui a passé la Seconde Guerre mondiale, qu'entre les deux, qui a été transformé de paquebot en transporteur de troupes, qui est passé au nez et au ras des torpilles allemandes qui voulaient le détruire. Et c'est le paquebot qui a amené aussi de nombreux soldats américains pour préparer le débarquement de 1944 en faisant la liaison des Amériques vers l'Angleterre. Donc, et il a été refait à nouveau en paquebot après la Seconde Guerre mondiale. Et il a fini par être appelé même le Saint-Bernard des mers parce qu'il a sauvé des centaines et des centaines de passagers de la mort, dont le célèbre naufrage de l'Andrea Doria. C'est vraiment le sauveteur. Donc un navire exceptionnel.
Alors, dis-nous un peu qu'est-ce que ça veut dire, donc, ce Little Italy qu'on entend souvent parler, souvent à New York d'ailleurs, hein, le petit quartier Little Italy.
Oui.
Explique-nous un peu.
Oui, alors, tout simplement, l'expression vient de New York, hein, puisque c'était un départ massif d'Italiens vers l'Amérique, bon, l'Amérique du Sud aussi, mais alors à New York, au départ avec le quartier de Manhattan, et naturellement, Le quartier en est devenu, avec une concentration d'Italiens sur un secteur, a été appelé Little Italy, une expression qui est d'ailleurs, comme je le disais tout de suite à tes collègues, qui a été reprise par un excellent film récent, c'est Napoli, New York. Alors, les experts disent, pour avoir cette appellation, c'est en quelque sorte une... comme on disait, un quartier communautaire, c'est jamais 100% d'Italiens. C'est entre un tiers et deux tiers d'Italiens sur un quartier, et ça revient à faire une notation spéciale, une connotation très italienne. Alors si on regarde justement à la même proportion sur Saint-Nazaire, bien dans ce quartier de Pinouette où les Italiens étaient, il y avait 250 à peu près logements. Et sur les 250, 138 logements étaient occupés par les Italiens, ce qui en faisait un peu plus de la moitié. Donc on est vraiment dans la proportion que les experts disent de reconnaissance d'une Little Italy. Alors on va en trouver, par exemple, ici, en région parisienne, Nogent-sur-Marne, par exemple, avec l'histoire extraordinaire aussi que présente François Cavanna dans son livre Les Ritales. C'est vraiment proprement une description de la Little Italy, hein, et que la ville de Nogent met très bien en relief. Il y en a d'autres, hein, dans l'est de la France, Villerue, on va en trouver ailleurs aussi en France, à Sète, dans le sud de la France, par exemple, et évidemment, plus on se rapproche de la frontière, aussi, dans le sud-est. Mais pour toute la façade, c'est ça qui est notable, toute la façade ouest de la France, c'est-à-dire des Pyrénées, jusque la Bretagne, même en englobant la Manche avec la Normandie, c'est la seule situation où on va retrouver ce phénomène d'une Little Italy.
Parce que, voilà. Little Italy, tu vois, c'est drôle. Hein. Voilà. On connaissait beaucoup le nom. Il y a eu des films qui ont parlé de New York avec ce quartier un petit peu presque mal famé, d'ailleurs.
Oui.
Et en fait, on utilisait ce nom sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Donc, un tiers, deux tiers.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres noms qui, par rapport à d'autres populations qui sont un peu la même chose? Little Espagnol, Little
Mexicain. Je pense que ça donne envie à d'autres... justement, population d'appeler comme cela, mais il est vrai que le terme Little Italy est passé dans un terme mondial. Mmh. Hein, ouais. On va au Brésil, on parle de Little Italy, les gens disent ah oui, d'accord, ils comprennent bien. On va en Argentine, c'est pareil. On va même des fois en Australie, il y a aussi ce phénomène. Et ben, en France, on est, tout le monde le cerne, en France et partout. Hein. Et en Italie, eh bien, aussi. Hein. En fait, le titre du livre, comme tu as dit, que c'était « Ciao Little Italy », eh bien, il n'y a pas besoin de le traduire. Il est carrément un titre international.
Alors, on va revenir un petit peu à l'immigration. Alors, pourquoi d'abord tous ces émigrés, donc on a compris qu'ils viennent de Gênes parce que c'est, oui, c'est un port, bon, et donc il y a un savoir-faire. Mais comment ça se passait en Italie à l'époque? Pourquoi tous ces Italiens sont venus travailler en France?
C'est vrai que ta question est très intéressante. En fait, c'est un effort conjoint des deux côtés. C'est-à-dire qu'en Italie, si on refait le contexte, 1924, on était dans une situation très délicate. Mussolini est arrivé au pouvoir en 1922 avec la marche sur Rome. Il y avait des opposants, donc un milieu pas facile pour ceux qui étaient opposants, finalement, pour parfois même pour, tout simplement pour travailler. Et donc, au même moment, l'Italie aussi avait cette crise économique, avec une industrialisation moins forte quand même qu'en France, un pays qui était plus naissant depuis le Risorgimento, hein, qui date de 1860, donc c'est une administration naissante, une population en expansion, une forte natalité, ce qui n'est plus d'ailleurs le cas maintenant.
Dommage.
Voilà.
Il faudra y revenir.
Ouais, voilà. Et donc, une crise, une pauvreté et une migration. Et donc, cette migration, au départ, vers l'Amérique, c'est après un petit peu estompé, parce qu'en 1924, justement, les États-Unis venaient d'installer un système de quotas pour les migrations qui se retrouvaient freinés. Et au même moment, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, 1924, c'est la volonté pour la France de faire ce bateau-là et d'envoyer des émissaires pour trouver de la main-d'œuvre supplémentaire sur les ports de Gênes et de La Spezia. Donc il y avait un terreau fertile pour ces Italiens pour partir. Et c'est comme ça que mes grands-parents étaient abordés et on leur a dit, vous pouvez partir pour 3 ou 4 ans de travail à Saint-Nazaire pour construire un bateau, mais finalement, ils sont restés toute leur vie.
Ouais, c'est pour ça que tu es là aussi.
Et c'est pour ça que je suis là.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on croit que finalement, les Italiens sont partis comme ça en France, parce qu'il n'y avait pas de travail en Italie, c'est sûr, et ils sont partis avec le baluchon, et puis ils ont traversé les Alpes, etc. Mais il y avait aussi quand même une demande de la France qui était très très forte.
Exactement. Ce qui d'ailleurs, et tu fais bien de le souligner, a favorisé, dans ce cas-là, la bonne intégration. C'est pas qu'il y a eu zéro difficulté quand même, mais globalement ça s'est bien passé parce qu'il y avait la bonne volonté des deux parties. Déjà les Italiens, bien eux, ils voulaient s'intégrer parce qu'ils sont venus avec famille, enfants et pour plusieurs années, donc il y a une volonté de s'intégrer dans la population de Saint-Nazaire. Et de l'autre côté, comme on voulait de la bonne main-d'œuvre qui soit dynamique, qui en veulent, parce que faire un bateau comme ça, c'est un sacré travail. Bien, en fait, on a fait un environnement propice pour bien les accueillir. Un quartier communautaire, les bains-douches ont été inaugurés juste en face en 1924. C'était par rapport à la propreté de l'époque,
c'était vraiment les
bains-douches juste en face de leur quartier. Hein, il y avait les halles, les bains-douches. Donc il y avait une bonne volonté des deux côtés et donc l'intégration s'est bien faite. Et ça n'a pas toujours été comme ça avec l'Italie en France. Hein. Vous êtes témoin de difficultés, des périodes difficiles. Mais là, c'est une période où il y a eu quand même quelques difficultés, mais ce n'est pas majeur. Quoi.
Alors on va écouter Francesco De Grigori qui nous raconte l'histoire de l'Ultimo Nave.
Oggi arrivano cinque navi da terre molto lontane. Guarda che belle bandiere e guarda che navi strane. La prima è già arrivata vicina, vicina, però non c'è nessuno a bordo. Oggi arrivano cinque navi, ma la prima è già soltanto un ricordo. Guarda, guarda. Oggi arrivano quattro navi, guarda che belle crue. Chissà che potremo trovare sulla nave numero due. Dieci bambini magri magri e mezzo tozzo di pane. La nave per ora rimane a largo, però m'è già passata la fame. Guarda, 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 papà, papà, guarda, papà, oggi arrivano tre navi cariche di caffè, ma guarda che strane persone a bordo della numero 3. Hanno le mani pulite, pulite perché non le usano mai. Deve essere gente pericolosa, gente che va in cerca di guai. E guarda che belle bandiere, guarda che belle chitarre, guarda che facce felici dietro a quelle sbarre. Sulla penultima nave, attori e musicisti rubano una scialuppa e chi li ha visti. E poi c'è la nave più piccola, la nave che non può affondare, la nave che arriva per ultima, la più bella in mezzo al mare. Perché sulla nave più piccola, quella che aspetto io, ci sta il tuo cuore di ragazza che ha catturato il mio. Guarda, 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 guarda.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Alors nous sommes avec Bruno Rossetti pour son livre Ciao Little Italy, et donc c'est passionnant, il nous parle de cette émigration italienne, ces bateaux, enfin toute cette construction de 1924 jusqu'à, ça a duré jusqu'à quelle année à peu près, cette émigration qui a aidé beaucoup dans les constructions des bateaux?
Alors ils sont tous arrivés en 24, et en fait ça a duré leur travail jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où ça a été un vrai cataclysme à ce moment-là, parce que Saint-Nazaire malheureusement a été bombardé massivement, hein, si vous regardez l'histoire, c'est 85% de la ville qui a été détruite. Pourquoi? Parce que les Allemands ont construit à Saint-Nazaire une des plus grandes bases de sous-marins sur la façade atlantique.
Les U-Boats, les fameux U-Boats
ouais. Hein, avec Lorient, Royan, Bordeaux. Mais Saint-Nazaire, c'est une très grande plateforme et donc représentait un énorme danger pour tous les Américains, les Anglais, et il y avait des bombardements incessants, et ce qui fait que malheureusement tout ce quartier, comme bien d'autres quartiers, ont été détruits, sauf quelques situations, comme les bains douches justement, qui ont été miraculeusement préservés, ainsi que les halles.
Revenons un peu à ton parcours, parce que finalement tu ne nous as pas dit, toi, ton parcours, c'est quoi, comment t'en es arrivé à écrire des livres sur les bateaux, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Maman, elle va te dire à la fin de ta vie, elle dit alors?
Ma vie à moi, donc c'est, tu es descendant d'Italien avec mon père néagène, ma mère est française, et donc... je suis né en 1960 à Saint-Nazaire, donc je connais très très bien ce terroir-là, toute cette communauté-là. Et ma carrière, parce que maintenant je suis à la retraite, a été dans la presse. J'ai travaillé chez Ouest France, qui est le premier journal français, qui est bien connu un peu partout.
Pour les Bretons,
France,
hein, tous les voilà, Bretons connaissent Ouest France, c'est vrai.
Voilà, et oui. Et donc je travaillais dans le marketing. Peu de temps avant la retraite, en 2018, j'ai eu un déclic pour écrire co-écrire mon premier livre qui était plus maritime que parler des Italiens, qui s'appelait Les trois paquebots mythiques, Île-de-France, Normandie, France. Ce livre, il a eu une distinction littéraire en 2021. Pour son côté, justement, mémoriel, parce que je commençais déjà à parler de l'avenue, d'un aspect social, l'avenue des Italiens qui étaient venus aider, ça qui a plu au jury, et c'était un encouragement pour l'éditeur à faire le deuxième livre qui s'est appelé La Little Italy de Saint-Nazaire, et là maintenant, le troisième, Ciao Little Italy, qui donne une dimension la plus nationale à l'affaire. J'ai intégré dedans aussi d'autres aspects parlant de l'immigration italienne d'une manière plus générale et pour intéresser tous les Français.
Et pourquoi cet amour pour les grands paquebots comme ça, hein? Comment ça t'est venu?
Alors, eh bien, ça m'est venu, là je vous ai raconté le déclic de 2018, c'est le deuxième. Le premier, c'est quand j'avais 15 ans.
Dans les paquets de Bonux, tu as vu un petit paquebot et tu t'es dit « Oh, mais ça me plaît !»
En fait, c'est important de citer le premier déclic à l'âge de mes 15 ans. C'est l'année où malheureusement j'ai perdu mon père, qui est décédé brutalement d'un cancer des poumons en 3 mois. Et là, je me suis dit « Cette histoire qu'il me racontait, et mes grands-parents qui étaient toujours en vie, elle est trop belle, elle est trop magnifique. Il faut absolument qu'elle soit racontée, qu'elle soit sue, que quelqu'un, un historien s'y penche, un écrivain. Voilà, ça j'avais cette idée-là, mais je ne pensais pas que ça serait moi. Alors les années sont passées, et en fait, personne n'en avait parlé. C'est une histoire qui était connue des gens de là-bas, mais elle n'était pratiquement
personne
pas.
Avait écrit des choses.
Très peu, ou localement, mais très peu. Walter Buffoni, qui est malheureusement qui est décédé, qui était un compagnon de mon père, a fait quelques travaux, mais c'était extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup côtoyé, je le remercie pour tout ce qu'il a pu faire pour m'aider. Et après, j'ai rebondi avec d'autres personnes aussi pour asseoir une connaissance beaucoup plus affûtée de tout cela, avec les archives aussi, ça et là, et en faire les autres ouvrages. Et donc, ce qui m'a animé, donc c'est la volonté de retracer l'histoire, de parler des Italo-descendants, par rapport à ma famille aussi, par rapport à mon père, par rapport à mes grands-parents, c'est de parler de tout ce récit et puis de poursuivre maintenant sur cette lancée qu'un vent porteur. Hein, je dirais que ce sujet a le vent en poupe.
Alors on va écouter, tu parlais tout à l'heure justement de Normandie, ben là on va écouter un audio sur l'inauguration du bateau Normandie en juin 35. Alors montez bien le son hein, parce que ça a plus de presque 100 ans ce son, donc, mais c'est important de l'écouter.
Accompagnons le paquebot géant au cours de cette première traversée. Le poste de pilotage. Madame Albert Lebrun est le commandant de Normandie. Tire aux pigeons artificiels. Une des piscines. Le jardin d'hiver. Le grand salon. Et quelques décorations murales. La chapelle. La piscine intérieure. Un coin des cuisines. La grande salle à manger. En vue de New York. Normandie arbore le ruban bleu. Rencontre du lieutenant de vaisseau Paris, le plus grand hydravion, et de Normandie, le plus grand paquebot du monde. Au cours de la traversée du retour, Normandie a battu son propre record de vitesse.
Tu as parlé du Normandie
oui.
tout à l'heure.
Oui.
Tu as des choses à rajouter par rapport à ce paquebot mythique ?
Ah bien, déjà, tu as fait vraiment un excellent choix de passer ces
bon,
deux
petites
émissions.
Le son est un peu compliqué parce que ouais, ça a presque 100 ans.
Mais... Ah ouais, mais là, tu as vraiment
c'est
fait
symbolique,
un, un excellent choix parce que tu as cité d'abord Île-de-France, tu as fait un petit passage. Là, c'est maintenant Normandie. Alors Normandie, pour vous laisser imaginer ce que c'est comme navire, le plus grand du monde. C'est-à-dire que si on redresse Normandie, on le met à la verticale, là, on est à Paris, hein. Eh bien, le Normandie, il est plus haut que la Tour Eiffel.
Ah ouais,
allez, bon,
ah,
vous voyez, on est à quelques kilomètres
ouais.
de la Tour Eiffel ici, je ne sais pas,
ouais,
allez,
ouais.
on est à...
300.
Ouais. Eh ouais, bon, bah, alors vous le dressez, le, voilà, c'est pour vous dire la taille du bateau. Hein. Ensuite, vous avez vu, à un moment de temps, ils ont parlé du ruban bleu. Qu'est-ce que c'est que le ruban bleu ? Ben, c'est le bateau détenteur du record en traversée, là, en vitesse, entre en fait, l'Angleterre et les États-Unis pour rejoindre New York. Et donc le bateau qui allait le plus vite. Et c'était une compétition acharnée, internationale, surtout entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne et aussi l'Italie qui, avec le bateau Rex, détenait juste précédemment ce record. Les Américains étaient un petit peu plus en recul sur ce sujet-là à ce moment-là.
D'accord. Alors, revenons un peu à ton livre là que tu viens d'écrire. Tu ne parles pas que des bateaux non. et des migrations
oui.
italiennes. Tu as intégré d'autres événements importants.
Oh, oui, oui. Le livre a beaucoup d'événements importants. Je dirais déjà, on est en région parisienne, on peut vraiment faire un grand clin d'œil à Nogent-sur-Marne, à la fois l'histoire avec Cavanna, aussi le monument là, qui a été inauguré avec l'équipe du cercle Leonardo da Vinci, présidé par Jean-Raphaël Cessa, mais là vous connaissez parfaitement le sujet. Hein. C'est aussi dans le livre eh bien, des explications sur le parcours en train, parce qu'ils sont partis donc de Gênes pour atteindre Saint-Nazaire. Ils sont donc passés par les Alpes. Donc je détaille la Savoie, le tunnel de Fréjus. Il y a des quiproquos qui sont arrivés aussi là-bas. La gare de Lyon à Paris, mais avant la ville de Lyon aussi. La confusion à Paris entre la gare de Lyon et puis Saint-Lazare par rapport à Saint-Nazaire. C'est des anecdotes que je raconte dans le livre qui sont assez marrantes. Donc je vais aussi détailler, comme tu l'as dit tout à l'heure, les mosaïstes. Qui ont fait un travail d'exception. Donc c'est un livre, il va être centré sur un aspect de la Little Italy avec les chantiers de Saint-Nazaire et ses fabuleux transatlantiques. Donc c'est quelque chose qui parle à tous les Français, mais en même temps gravite autour des explications complémentaires qui permettent de se faire une idée d'ensemble de cette migration italienne en France.
D'accord, on parlera justement un peu du devoir de mémoire après une pause musicale avec Luca Carboni qui nous chante Mare Mare.
Mare comprato anche la moto, usata ma tenuta bene. Ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia. Oh, tengo il ritmo, prendo. Partito da Bologna con le luci della sera, forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo. Ole, questa notte mi porta via. Ale, questa vita mi porta via, mi porta al mare. Ah, mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì, e che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Seguire sì, per stare a galle e non affondare, no no, yeah, yeah. Ma son finito qui sul molo a parlare all'infinito le ragazze che schignazza e mi fan sentire solo. Non si ma cosa son venuto a fare, ho già un sonno da morire. Vabbè, cameriere, un altro caffè per piacere.
Alors, nous sommes avec Bruno Rossetti qui nous parle de son livre qui s'appelle Ciao Little Italy. Et alors, dans ce livre, tu nous parles aussi du tourisme des radici, des racines. Dis-nous deux mots par rapport à cette chose-là. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ?
Ah oui, oui, alors ça c'est un sujet d'actualité en Italie, un sujet totalement prometteur. Parce que, en fait, ça fait partie du plan de relance économique de l'Italie suite au Covid. Où ils se sont dit, tiens, mais on est un pays très, très touristique, comme la France. Mais l'avantage de l'Italie, c'est comme il y a eu une migration massive, c'est quand même 26 millions d'Italiens qui sont partis d'Italie sur un siècle, ça veut dire la conséquence qu'il y a 80 millions d'Italo-descendants dans le monde. Des Américains, des Brésiliens, des Argentins, et puis des Français, des Belges, etc. Comme nous, là, qui sommes Français italo-descendants. Certains d'eux-mêmes ont fait le lien avec leurs traces, leurs racines. Ils sont allés voir le pays de leurs grands-parents, de leurs parents. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. D'autres l'ont fait, mais peu.
Des acteurs américains l'ont fait récemment. Oui, voilà. Robert De Niro, etc.
Ouais, c'est ça. Ouais. D'autres ne l'ont pas du tout fait. Mais si on met un programme pour développer, leur donner envie, leur faire sentir sous les narines. Vous pouvez tout savoir sur votre région natale à 50 km à la ronde, les musées, la gastronomie, l'art, la culture. Ça donne vraiment envie. Et là, ça intéresse les descendants, donc les jeunes aussi. Et donc, c'est mis en relief en Italie actuellement par diverses structures, des structures qui sont nationales comme Italia, mais aussi des structures particulières. Je pense à Letizia Sinisi qui a formé une structure vraiment très intéressante qui s'appelle Italy Routing en Italie, qui est particulièrement active. C'est une femme totalement exceptionnelle que je connais, que j'ai rencontrée, parce que je suis allé faire une conférence à Matera, dans le Basilicata, et le sujet absolument génial et prometteur.
D'accord. Enfin, l'Italie s'intéresse à ses émigrés, dis donc, pour finalement ramener des devises pour du tourisme. Faut le faire, ça, quand même. Hein,
oui.
Alors qu'on est considéré un petit peu comme des Italiens de seconde zone, voilà. Les Henriondi, hein, oui. Ceux voilà. qui ça, sont partis.
C'est vrai, ça, tu dis là une chose essentielle, mais là, c'est en train de changer complètement. Il y a vraiment la volonté des Italiens de vraiment bien accueillir les Italo-descendants.
Bah déjà, qu'est-ce qui reste de l'émigration italienne à Saint-Nazaire ? Est-ce que il y a encore quelques associations ?
Oui, il existe l'association, donc comme partout, il y a des associations italiennes, et ça c'est France Italia, à Saint-Nazaire, il y en a un petit peu partout. C'est une association d'ailleurs qui a adhéré au cercle Leonardo da Vinci pour participer par rapport au monument. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de trace physique du quartier Little Italy qui a été rasé complètement par les bombardements. Par contre, on peut voir quand même des traces de cette vie sur place avec ce qu'il y avait autour, comme les bains-douches qui ont miraculeusement survécu aux bombardements, ainsi que les halles, et aussi toute la zone portuaire, la forme Joubert par exemple, qui est mondialement connue, c'est là où on mettait les bateaux en réparation et un lieu de passage pour aller vers l'Atlantique, justement entre le port et l'Atlantique, avec une forme écluse, eh bien, elle a évidemment subsisté parce qu'elle était indestructible pratiquement. Donc on peut voir des traces de ce passé. Il y a toujours aussi des Italiens qui sont ça et là, parce que c'est toujours la capitale de la construction navale, et c'est là
oui,
que
se font... Il y a peut-être beaucoup des émigrés encore qui participent à ces grands paquebots là, qu'ils sont en train de faire.
C'est ça, mais c'est plus comme avant. Des familles, ils viennent là pour des missions d'eau trois mois, voilà. Et
ils ne s'installent pas.
Ils ne s'installent pas, forcément. C'est là que le lien avec l'Italie aussi de Saint-Nazaire, c'est là qu'actuellement sont toujours fabriqués la plupart des navires MSC. Les navires de la crotière, les navires de croisière de cette énorme compagnie qui a ses origines vers Naples-Sorrente et qui a son siège social actuellement en Suisse, mais pour des raisons économiques. Mais en fait, le lien avec l'Italie est toujours d'actualité avec cette construction des navires de croisière.
Puis c'est grâce à toi, parce que tu fais vivre avec ce livre. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission. Juste rapidement, comment on peut transmettre un peu justement cette histoire, là, tu l'as fait avec des livres, mais pour les jeunes qui vont arriver, les jeunes Italiens, voilà, qui sont de troisième génération, comment on peut leur dire, bah, tu sais, il y a 100 ans, il y a des arrière-grands-parents qui sont venus
Moi, je crois que c'est le cœur qui parle. J'ai remarqué que, faisant beaucoup de dédicaces, j'ai vu des fois passer des jeunes devant moi. Ils voient le titre, justement, « Ciao Little Italy », où ils voient « Little Italy ». Ah, okay. Attends, ma grand-mère est de là-bas. Ah, ben, ils regardent. Et je sens souvent que dans leur cœur, leurs racines, ça leur parle. Je pense que c'est là, on voit bien autour de la table qu'on aime l'Italie, mais dans les jeunes aussi, il y a cet amour de leurs racines. Et donc, de parler à la fois de l'histoire, de tout cela, de l'actualité aussi, parce que les jeunes, ils aiment bien l'histoire, mais ils aiment bien aussi l'actualité. Justement, parlons du tourisme des racines, parlons de la gastronomie italienne, qui est maintenant en plus au patrimoine mondial de l'UNESCO, parlons des musées, des paysages. En fait, on peut parler de 36 choses sur l'Italie, qui est un pays absolument fabuleux.
Mais pourquoi ne pas faire une exposition ?
Parler de toutes ces choses-là ?
Oui, parce que pour les sorties scolaires ou universitaires.
C'est des bonnes idées. Justement, il faut avoir sur le sujet le vent en poupe. pour aller vers des objectifs futurs. Et dans les objectifs futurs, le premier, c'est aussi que ce livre, un jour, puisse exister en italien. Alors, je suis bien parti pour. J'espère que ça va pouvoir se faire parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, ce livre, il me plaît, ils l'ont lu, il y a beaucoup de photos, mais le même en italien, ce serait génial. »
Merci Bruno Rossetti. Alors, Bruno, c'est la fin de l'émission.
Oui.
Où c'est qu'on peut te retrouver bientôt? Quels sont, juste rapidement, tes projets?
Ah ben, il y a un grand événement qui va arriver bientôt. C'est à la fin de l'été, là, le 11 et 12 septembre, c'est à Saint-Jean-de-Maurienne. Ils ont eu l'idée de faire un excellent festival, mais qui va être de grande ampleur, entre la France et l'Italie, qui s'appelle justement Festival Little Italy, qui va réunir la chanson, la gastronomie, la littérature et j'en passe. Et donc, je vais faire deux conférences là-bas, des dédicaces de mon livre. Entre-temps, je ferai aussi des petites dédicaces ça et là. Et le livre, on peut le retrouver partout aussi.
Mais peut-être qu'on y sera aussi avec l'hôpital, il y a peut-être en septembre.
Ah, c'est excellent, ça me ferait plaisir. Molto piacere, grazie mille.
Voilà, ton livre, rapidement, on le trouve?
Oh, alors, on le trouve à la librairie, je dirais, à Paris. Alors là, c'est vraiment un fief pour les livres comme cela. Mais on le trouve autrement partout, la FNAC, les centres culturels, Leclerc, etc., les librairies de quartier, et j'en passe. En fait, l'objectif, c'est que, justement, il est distribué par Dilisco, qui est un très bon distributeur en France pour arroser tout le territoire français.
Merci Bruno. Merci. On espère que tu reviendras très vite à Paris. Peut-être, pourquoi pas, pour un nouveau livre ou d'autres choses aussi sympas que tu nous as parlé de ces bateaux. On a rêvé pendant une heure avec toi.
Eh ben, merci beaucoup de votre accueil chaleureux et sympathique.
Merci.
Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai.
Mi sembra di sentire mio fratello che aveva un grattacielo nel Perù.
Voleva arrivare fino in cielo e il grattacielo adesso non l'ha più.
Finché la barca va,
sotto il sole, tra file di ginestre di lilla,
Ebbene, Cappuccino termina qui. Tutta l'equipe, ringraziando Enrico, Mastro Giovanni alla regia, vi auguro ancora una buona domenica, una buona settimana e vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre che voi lo vogliate. Ciao.
A che ora? A 8h, de 8h à 11h. Ciao. Baci a tutti.